France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Cette semaine, une série consacrée à l'espace, celui qu'on habite avec plus ou moins de bonheur, celui qu'on partage ou non, et celui qu'on conquiert. Ce matin, les conquêtes de l'espace extraterrestre et les fantasmes corrélés. Bien sûr, il y a l'apparente insouciance de la guerre des étoiles pendant la guerre froide au XXe siècle. Une compétition où tous les coups sont permis. D'ailleurs, nous évoquerons des choses parfois méconnues. Par exemple, comment d'anciens ingénieurs nazis ont été recrutés par la NASA, prêts à tout pour passer devant les soviétiques. Les travaux actuels évoquent une véritable astroculture, désireuse de tout contrôler depuis là-haut et aussi d'envahir ce là-haut, non sans euphorie. Mais il ne faudrait pas oublier que la découverte de l'espace extraterrestre à partir de Copernic et Galilée, c'est d'abord pour les humains l'histoire d'un orgueil rabaissé. Non, la Terre où nous nous trouvons n'est pas le centre de l'univers. L'angoisse est d'ailleurs une veine de la littérature de science-fiction, de celle en tout cas qui critique, plutôt qu'elle ne célèbre, les envies de domination de l'univers par les humains. On pense à La guerre des mondes de H.G. Wells en 1898, qui hérite un peu de l'inquiétant roman gothique anglais, notamment du fameux livre de Mary Shelley de 1818 au titre ou sous-titre éloquent Frankenstein ou le Prométhée moderne. D'ailleurs, Wells, auteur de La guerre des mondes, n'avait sans doute pas l'esprit assez conquérant, il était un peu socialiste aussi, pour figurer sur la liste établie par l'Allemagne nazie des écrivains à arrêter immédiatement en cas d'invasion de la Grande-Bretagne. Au fond, ce qu'il y a de rayonnant dans la conquête de l'espace extraterrestre, c'est peut-être avant tout la capacité à mettre à distance l'angoisse première. Rappelons-nous Apollo 11 qui soulève les cœurs en 1969, deux ans après le terrible incendie qui a coûté la vie à tout l'équipage de Apollo 1. Ce sont aussi dans un autre genre les grands discours de l'Amérique de Trump, assurant que la grandeur de ce pays n'a aucune limite terrestre, pour que surtout personne ne s'inquiète de rien. Bonjour Sophie Roux, êtes-vous avec nous ? Non, elle n'est pas encore avec nous, elle le sera dans quelques instants, elle est à distance. Elle est professeure d'histoire et de philosophie des sciences à l'École normale supérieure à Paris. Elle connaît très très bien les fantasmes générés dès la Renaissance par l'accès, au moins visuel, à l'espace extraterrestre. Et bonjour Irénée Regnault.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur associé à l'Université de Compiègne et en ce moment doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous avez publié en 2024 aux éditions La Fabrique avec votre co-auteur Arnaud Saint-Martin un livre passionnant intitulé « Une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazies aux astro-capitalistes du New Space ».
Nous mettrons en œuvre notre destinée manifeste et permettrons de planter notre drapeau sur la planète Mars.
Ambition is the lifeblood of a great nation.
Notre nation est faite d'ambition et aujourd'hui, notre nation n'a jamais été aussi ambitieuse. Nous sommes plus ambitieux que toutes les autres nations. Les Américains sont des explorateurs, des constructeurs, des innovateurs, des entrepreneurs, des pionniers. Cet esprit pionnier est inscrit dans notre cœur. Le prochain chapitre de notre aventure viendra de notre âme. Nos ancêtres ont transformé quelques petites colonies en une grande république, la plus belle république au monde. Nous sommes premiers et de loin. Les Américains ont repoussé la frontière vers des terres sauvages. Ils ont bravé toutes sortes de dangers. Ils ont mis un terme à l'esclavage. Ils ont sauvé des millions de personnes de la tyrannie. Ils ont sauvé de la pauvreté des millions de personnes. Ils ont scindé l'atome. Et ils ont placé l'univers des connaissances dans la paume de notre main. Ensemble, rien n'est impossible.
C'était un passage du discours d'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025. À l'entendre, la conquête extraterrestre prolonge la conquête de l'espace américain. C'est un état d'esprit qui, assure-t-il, travaille toujours à la liberté pour tout le monde. Trois mois plus tard, les États-Unis ont célébré, c'est-à-dire il y a quelques jours, le vol d'une fusée de Blue Origin, entreprise de Jeff Bezos, n'accueillant à son bord que des femmes, dont la fiancée de celui-ci et aussi la chanteuse Katy Perry.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1, ignition.
You guys, I will have to tell you, look at the moon.
Katy, I'm going to tell you something right now. You are officially an astronaut.
Thank you so much.
How do you feel?
I feel super connected to love.
500 000 dollars, c'est cela que ça a coûté. Je pense que c'est une considération qui est la vôtre. Irénée Regnault, peut-être pas la seule.
Ça fait effectivement partie de ce qu'on a nommé, avec de façon un peu exploratoire avec Arnaud Saint-Martin, l'astrocapitalisme. C'est cette pointe émergée d'un espace à conquérir, y compris commercialement, par des personnes ultra riches, ce qui était à la fois quelque chose de connu dans l'histoire spatiale. Les premiers astrotouristes, c'est déjà dès le début des années 1980, dans la navette. Mais force est de constater que voilà, c'est souvent qualifié comme une forme de gabegie énergétique aujourd'hui, s'annonce publiquement de cette manière avec des entreprises comme celle de Bezos, qui d'ailleurs ne fait pas que du tourisme spatial, c'est un point de leur activité. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que comme jamais, je pense, dans l'histoire contemporaine, ça remet vraiment en question cette question de conquête à l'aune des grands problèmes sociaux qu'on connaît sur cette planète. Donc, d'une certaine manière, pour un sociologue, c'est quand même très intéressant.
Vous, après tous vos travaux, vous considérez que c'est de la pub, que c'est du marketing, c'est cosmétique, parce que 500 000 dollars pour Jeff Bezos, c'est cosmétique. Ou bien, il y a une vraie ambition scientifique, voire existentielle. Un jour, nous aurons peut-être besoin de cet espace extraterrestre pour y faire des choses, voire pour y habiter. Est-ce qu'il y a du fond, ou est-ce qu'il y a surtout de l'esbroufe ?
Alors historiquement, il y a surtout une ambition au détour des années 80 d'étendre absolument toutes les possibilités de mettre en marchandisation l'espace. Donc ça peut être sur le plan de la conquête purement astrotouristique, ça peut être aussi d'un point de vue purement scientifique, par exemple avec des expériences en orbite, ou encore avec des questions de reconnaissance environnementale, des privatisations en série. Là aussi Star Wars dont vous avez parlé, donc le grand programme de antimissile, le bouclier antimissile de Reagan. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans la pure stratégie distinctive d'une élite qui souhaite se différencier à travers finalement cette activité qui n'est accessible qu'à elle, d'une certaine manière. L'argument scientifique derrière, il existe. Vous avez eu des vols touristiques, astro-touristiques, avec des prétendues expériences à bord. C'est toujours assez grandiloquent, soigner le cancer, etc. Tout cela n'est jamais arrivé, tout cela n'arrivera jamais, évidemment.
En juillet 2000... Alors c'était quand ça? C'était j'ai plus la date anniversaire exacte pour Apollo 11. Apollo 11, c'est 69, donc ça devait être en 2019 que nous avons fêté cet anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Il y a eu beaucoup de documentaires. Personnellement, je me souviens de nuits entières où j'ai regardé des documentaires et j'avoue avoir été émue. Il y a des sentiments de... On a à la fois peur pour eux, il y a quand même quelque chose d'assez admirable. J'aimerais savoir si vous, qui avez une vision tellement critique de la conquête de l'espace, pour vous c'est de la domination et point.
Non.
Est-ce que vous avez, comme moi et d'autres parfois, des sentiments d'enthousiasme, d'excitation, ou bien vous êtes très sévère avec ce genre de sentiments?
Je crois je suis avec Arnaud Saint-Martin, on est vraiment ni l'un ni l'autre. Effectivement, on est d'une certaine manière aussi fasciné, plus par l'astronomie, aussi par quelque part les miracles. Je qualifie déjà, c'est très normatif de dire miracle, mais d'ingénierie tout de même, qui ont eu lieu au détour de la guerre notamment. C'est historiquement très riche. Après, l'effort de sociologie qu'on a fait, c'est un effort de distanciation. On a regardé l'espace très, très froidement, et on a essayé de le faire justement pour mettre de côté toute cette passion, essayer de l'expliquer, essayer de montrer comment elle avait été aussi construite d'une certaine manière à travers de la proto-science-fiction, de la science-fiction aussi, des documentaires, d'une forme de propagande en réalité, qui relève une sorte de paradoxe en fait. Le principal argument de la conquête spatiale, mot piégé qu'on déconstruit dans ce livre, est de dire qu'elle est inscrite dans nos gènes, consubstantielle finalement à l'humanité. Et d'autre part, quand on regarde l'histoire du spatial et notamment du spatial américain, on s'aperçoit que cette histoire est tout à fait contingente, qu'elle est liée à des débats houleux dans les arènes de la politique états-unienne, qu'il faut quand même passer devant le Congrès chaque année pour l'administrateur de la NASA pour faire valider des budgets. Donc si c'est si naturel, alors pourquoi faut-il se battre en permanence à coups de propagande, et pourquoi faut-il se battre pour aller glaner des budgets pour réussir à faire un saut de puce en orbite ou tout au plus envoyer quelques hommes sur Terre?
Je ne comprends pas bien votre étonnement. Si c'est difficile d'obtenir des budgets, ça prouve que ça n'est pas naturel. Ça veut dire que...
Absolument.
Donc, que, en fait, c'est quelque chose comme parfois la science qui essaye de se battre parce qu'on n'a pas envie d'elle. Or, votre ouvrage dit un peu le contraire. Il dit que c'est naturel au pays, surtout dans les modèles capitalistes, d'aller vers là-bas. Donc,
notre ouvrage explique que cette naturalisation du désir de conquête, ce qu'on appelle l'évidence spatiale, hein, pour être concret, donc je pense que tout le monde comprend à peu près, c'est un concept un peu facile, l'évidence qu'il faudrait y aller, est présentée comme un argument phare, justement pour défendre cette conquête spatiale. Nous, ce qu'on essaye de montrer, et ce qu'on montre, je pense, aussi avec les archives, c'est que cette évidence est construite et qu'elle n'est pas évidente.
Donc c'est une évidence, mais qui, au quotidien, sur le plan des budgets, est loin d'être une évidence.
Tout à fait, elle ne l'est pas du tout. Et d'ailleurs, vous écoutez, par exemple, l'extrait de Donald Trump que vous avez mis tout à l'heure à l'écoute. Il parle de la destinée manifeste, il parle finalement de l'histoire aussi des États-Unis, de tous ces mythes auxquels il se réfère pour... aussi créer une forme d'évidence, cette fois plus socio-historique d'une certaine manière que biologique, mais elle pourrait être biologique. Et on voit bien que ce sont des arguments qui sont repris sans cesse et sans cesse par une multitude de présidents américains qui ne résistent pas, par exemple, à l'épreuve des faits en ce qui concerne les sondages qui sont faits chaque année auprès des citoyens américains et qui montrent que l'attrait pour la Lune ou pour Mars est en réalité très faible. Et vous avez pendant toutes les années 60 assez peu d'Américains qui sont convaincus qu'il faut aller sur la Lune. Aussi parce que les débats qu'on a aujourd'hui sur l'astrotourisme, le prix des budgets spatiaux, le programme Artemis par exemple de retour sur la Lune, qui est en bien mauvais état mais qui a coûté pas loin de 100 milliards de dollars quand même sur les 10-15 dernières années, ces choses-là ne sont pas franchement acceptées par les États-Unis. Et ça, c'est intéressant.
Est-ce que vous faites une différence entre l'argent privé et l'argent public aujourd'hui? Nous avons donc des Jeff Bezos, des Elon Musk qui, avec leur argent privé, lancent des entreprises spatiales, des initiatives. Est-ce que vous en déduisez que, au fond, d'un point de vue public, les choses deviennent de moins en moins évidentes, correspondant, d'après ce que vous venez de dire, au fait que le peuple dans son entièreté, c'est ce que vous dites, en tout cas, ne s'y intéresse pas tant que cela?
Non, c'est pas qu'il s'y intéresse pas, c'est que le problème avec l'espace, c'est que c'est un mot qui suscite une sorte de flou, puisqu'il est quelque part posé de manière à ce qu'on ne puisse pas différencier des activités qui sont de l'ordre du vol habité, des activités qui sont de l'ordre du militaire, des activités qui sont de l'ordre du scientifique, qui parfois s'entrecroisent et parfois non. Donc c'est important d'opérer cette différenciation, et c'est vraiment à ça que sert notre ouvrage. En ce qui concerne la place du privé ou du public, la question mérite de toute façon un retour à l'histoire. l'espace en tant qu'industrie astronautique a toujours été une entreprise qui a mobilisé des entreprises privées. Boeing, Lockheed Martin, des entreprises qui sont encore là, pour certaines d'ailleurs en crise, ont travaillé pour la NASA dès la fin des années 50 pour fabriquer des missiles, des engins en tout genre, dont certains ont été hérités d'une certaine manière aujourd'hui. Ce qu'on appelle le privé, donc c'est-à-dire le détour du New Space, donc cette nouvelle phase de l'histoire spatiale au tournant des années 2000, c'est un public qui se reconfigure en réalité. Elon Musk tire avec des moteurs qui sont financés par la NASA pour d'autres entreprises. Il tire depuis des bases qui sont des bases de missiles américaines.
Donc c'est aussi du public qui est impliqué.
D'une certaine manière, d'ailleurs, il y a une enquête récente qui l'a bien montré. Hein. Elon Musk, depuis le début de SpaceX, on est en 2002, c'est 22,6 milliards de dollars qui sont injectés. Donc ce sont des contrats avec le département de la Défense, ce sont les contrats pour le ravitaillement de la Station Spatiale Internationale. Et c'est aussi un modèle d'affaires qui est lié à la puissance symbolique américaine avec Starlink, les constellations de satellites. Donc il marche un peu sur trois jambes avec cet univers du vol habité, cet univers du lancement avec des fusées comme Falcon, qui fonctionne très bien, et cet univers des télécommunications. On ne peut pas délier ça, finalement, du reste du complexe militaire ou industriel américain qui nourrit abondamment cette dite conquête, autant qu'il nourrit d'ailleurs tout un tas d'autres entreprises, des centaines en réalité, dans le New Space, mais la plus grosse, et je pense que là-dessus, il y a quasiment consensus, les économistes de l'espace le disent bien, la seule grosse entreprise du New Space, c'est quand même SpaceX en réalité.
Je vous propose d'écouter un extrait du film To the Moon de 2024, réalisé par Greg Berlanti avec Scarlett Johansson. Mais attention, c'est un fantasme qui correspond assez à vos thèses, c'est-à-dire que toute cette histoire d'aller marcher sur la Lune, c'était une histoire de marketing, et les chercheurs rappellent que c'est une reconstruction, ce n'est pas exactement comme cela que ça s'est passé dans la réalité, mais ça prouve bien qu'on a tendance à lire des enjeux capitalistiques au tout premier plan. Écoutez.
Je voudrais vous faire valider des campagnes publicitaires. Omega.
On n'est pas à New York, on n'a pas de budget pour ça.
Non, ça ne coûtera rien. La marque en tire une visibilité exceptionnelle et la NASA fait son chemin dans la tête de monsieur et madame tout le monde.
Une pub de montre. Alors c'est ça votre grande idée.
Prêt ? Mm-hmm. Dentifrice. Tang ! De l'énergie au petit déjeuner pour les astronautes d'Apollo lors de leur voyage pour la Lune.
De la poudre dans l'espace.
Et ma petite préférée ? Fruit of the Loom. Bah oui, les astronautes doivent bien porter quelque chose sous leur combinaison.
On est à la NASA, Fruit of the Loom. Il n'est pas question de transformer ce vaisseau en panneau publicitaire volant. Et ça, même si vous y tenez plus que tout au monde. Et pour finir, on n'aura pas le temps de tester ces équipements avant le lancement.
Qu'on les envoie ou non, peu importe. L'essentiel, c'est de dire qu'on l'a fait.
Donc vous mentez aux gens?
Non, c'est de la vente. On ne ment pas, on change la perception des clients.
Non, c'est du mensonge. Pour vous, le monde n'est peuplé que de clients potentiels, n'est-ce pas? Je sais bien que vous êtes un ponte de la publicité et un requin aux dents longues, mais la NASA n'est pas un produit qu'on vend avec un jingle et un slogan.
Là n'est pas la question. La NASA va devenir la coqueluche du public, le Congrès s'en rendra compte et finira par rouvrir les vannes.
Et tout ce que j'ai à faire, c'est laisser Armstrong porter une montre Omega?
La sphère complotiste, paraît-il, se régale avec ce film. Une histoire de capitalisme, au fond, la guerre des étoiles et la conquête de la Lune. C'est votre point de vue aussi?
Disons un petit peu plus mesuré, mais je pense que ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est de montrer qu'effectivement la NASA a besoin de convaincre que une forme de culture matérielle est mise en place, mais cela intervient d'une certaine manière avant le programme lunaire. Qui va coûter quand même jusqu'à 5% du PIB au climax d'Apollo, donc il faut toujours convaincre. Mais cet effort de conviction, il démarre dès la fin des années 40, en réalité, alors que ce qui est imaginable du point de vue de la conquête, c'est-à-dire le fait d'y aller, de s'y rendre, ce qui est déjà en soi pas neutre, hein. Le fait d'imaginer l'espace comme un milieu profond qu'on puisse habiter, conquérir, c'est pas une évidence. L'espace, c'est aussi le ciel, le cosmos, la Voie lactée. Donc il a fallu aussi créer, ou en tout cas ces représentations ont fini par dominer, en tout cas une certaine partie du public, et ont lieu à travers beaucoup de documentaires. Donc, dès les années 40, vous avez Werner von Braun, par exemple, ancien nazi qui travaille avec la NASA, et également avec Disney, pour présenter la conquête spatiale comme un avenir désirable. Et il y va finalement aussi de subterfuge, un petit peu comme on l'a entendu dans cet extrait, c'est-à-dire en présentant des vaisseaux, des navettes qui n'existent pas vraiment, avec des ailes très élancées qui n'ont pas franchement d'utilité dans l'espace puisque vous n'avez pas de portance. Le rôle des maquettes est aussi très important en réalité. C'est une maquette qui va être amenée en Europe pour aussi convaincre les Européens de se joindre au futur projet de la Station Spatiale Internationale. Donc ça compte, effectivement.
Alors on va enfoncer le clou sur l'histoire des nazis dans la NASA. Donc au départ, il y a eu un port en Allemagne, au bord de la mer Baltique, en Poméranie occidentale, au nord-est de l'Allemagne, qui s'appelait Peenemünde, je crois que c'est comme ça qu'on prononce.
C'est tout à fait ça.
Et donc, entre 1936 et 1945, beaucoup d'ingénieurs nazis ont travaillé là, à beaucoup de projets qui pouvaient effectivement impliquer des enjeux extraterrestres, spatiaux, etc.
L'idée a été à ce moment-là, à Peenemünde 2, de contribuer à fabriquer des armes miraculeuses, hein, les fameux Wunderwaffen, donc c'est-à-dire des missiles capables, parce qu'ils passaient au-delà des limites de l'atmosphère, d'aller très très vite, hein, donc les V1, les V2 et bien d'autres en réalité, les plus connus sont les V2, qui ont été fabriqués en série dans cette usine qui a été en réalité bombardée par la Royal Air Force en 1943,
oui.
Et qui a conduit à sa migration à Dora Mittelbau, donc une autre usine cette fois-ci.
Un camp de concentration, Dora Mittelbau, près du camp de Buchenwald, autre camp de concentration, donc pas mal de prisonniers de ces camps ont travaillé dans cette usine.
Absolument, et 20 000 sont par ailleurs morts dans des conditions absolument atroces. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du passé qui ne passe pas dans l'industrie astronautique. En réalité, on se raconte aussi cette histoire de la conquête spatiale.
C'est-à-dire, pour préciser, les Américains ont recruté des ingénieurs après la guerre en les blanchissant, en les évitant qu'ils aient des problèmes, en particulier Werner von Braun. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu?
Bien sûr, ils sont en réalité 128 à partir aux États-Unis pour ce qui est de l'astronautique. Ils atterrissent au Texas puis en Alabama. Ce qui est moins dit, c'est que ça relève moins de l'accident de l'histoire que d'une grève qui prend. Ces gens arrivent en Alabama, qui est un état raciste, et en fait ça fonctionne très bien, tout simplement parce qu'ils s'y retrouvent idéologiquement dans une Amérique qui est aussi, c'est les lois de Jim Crow, c'est la ségrégation en réalité. Après la France, l'Angleterre, l'URSS vont aussi y aller de leur reprise. Hein. En France, on va avoir de la même manière un village allemand qui va être monté en Normandie, près de Vernon, et qui va permettre aussi à la France de prendre une certaine avance. Mais ça, c'est d'une certaine manière, c'est pré-histoire spatiale. On aime, et d'ailleurs c'est ce que fait par exemple Anna Arendt quand elle fait démarrer cette modification anthropologique du rapport à l'espace par 1957 avec Spoutnik. Matériellement, si on est un peu plus matérialiste, justement, l'histoire spatiale naît bien avant. Elle naît dès les années 40, avec des groupes de fuséologues amateurs qui font décoller des fusées dans leur jardin. Donc c'est intéressant de remonter là et de voir les phénomènes de cristallisation industrielle. Il y a des moments où ce qui est de l'ordre de l'amateurisme devient une possibilité technique et qui se marie à plein de choses qui sont d'une certaine manière l'astroculture, donc on a des fusées, on va pouvoir mettre des gens au bout et vraiment partir, ou encore la question militaire, la consubstantialité avec l'arme nucléaire. Donc il est important de retracer cette histoire dans tous ses rhizomes en fait pour bien la comprendre.
Donc Spoutnik 1, c'est en 1957, c'est une humiliation pour les Américains. Les Soviétiques ont été capables de mettre en orbite le premier satellite et on peut effectivement, certains disent que toute la suite pour la NASA a été une volonté de faire oublier cette première humiliation. Alors, je vous propose qu'on introduise d'autres concepts que seulement celui d'une domination. Alors, chez vous, ça, vous y allez fort, hein, des nazis aux capitalistes. Là, on a l'impression qu'il y a une ligne droite, un petit peu. Non, je me trompe?
Non. Il faut le prendre comme un 2A. Qui n'est rien d'autre que deux points dans l'histoire qui ne sont pas forcément reliés. Ce livre est un gros livre qui va rabattre d'une certaine manière 100 ans d'astronautique, c'est-à-dire c'est plutôt une histoire de l'astronautique, en commençant dans les années 40, en finissant dans les années 2020. En réalité, le livre est sorti en 2024. On ne pourrait pas faire un lien direct entre l'Allemagne nazie et l'astrocapitalisme récent, ça n'a absolument aucun sens. Et puis d'ailleurs, il y a tout un tas de périodes en fait qui sont très mal connues, dans les années 70, au milieu des années 90, avec des phases de libéralisation, par exemple, du GPS, hein, qui sont des phénomènes liés au spatial qui sont tout à fait capitaux dans la construction de l'astrocapitalisme, qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Donc pas d'un inquiétude, ce livre ne tire pas un trait grossier entre ces deux périodes.
Vous mobilisez aussi le paradigme colonial, si j'ai cru comprendre dans votre travail.
En fait, on mobilise tout ce qui permet de lire l'histoire du spatial d'un point de vue politique. C'est-à-dire en évitant les raccourcis qui sont ceux des grandes dates, qu'on voit systématiquement, par exemple dans les grandes expositions sur le spatial, dans quelques livres parfois un peu trop vulgarisant, c'est-à-dire 1957 Sputnik, puis ensuite la série des premières soviétiques, hein, donc Gagarine, Tereshkova, etc. On envoie des chiens, des rats, des singes, etc. Jusqu'au climax d'Apollo avec le pied sur la Lune, et puis très vite on passe aux robots, la Station Spatiale Internationale, on voit à peu près de quoi on parle, mais en réalité, on n'arrive pas finalement à tirer vraiment les ficelles de tous ces choix ou non-choix qui sont faits ou qui ne sont pas faits.
En tout cas, c'est un désir de domination qui traverse votre analyse, et ça, le point nodal de votre ouvrage. Et donc, je vais faire référence à un autre penseur philosophe, Günther Anders, du XXe siècle, extrêmement sombre, très critique, au moins autant que vous. Mais lui, c'est plutôt du côté de la psychanalyse qu'il va chercher des concepts pour penser l'enthousiasme pour la conquête des étoiles, on va le dire comme ça, même si c'est un enthousiasme qui n'est pas... Je ne vais pas donner trop de nuances, on va en parler après. Écoutons cet extrait de Vue de la Lune de Günther Anders, Réflexion sur les vols spatiaux. C'est un ouvrage ancien qui a été publié en 1994.
Pas besoin d'être psychanalyste pour se rendre compte que l'enthousiasme paranoïaque de millions d'Américains pour les fusées et les vols spatiaux, notamment ceux qui visent la Lune, permet, voire exige, une interprétation psychanalytique. Il est indéniable que les fusées ressemblent à de gigantesques phallus. Les zeppelins, qui ont joué un grand rôle en tant que symbole au début de la psychanalyse, ont désormais trouvé des dignes successeurs contemporains. Il est tout aussi indéniable que l'ascension verticale d'une fusée a un aspect érectile et que le détachement des capsules occupées par les petits hommes ressemble à d'énormes images d'éjaculation. Enfin, on conçoit aisément que l'alunage a quelque chose à voir avec la conquête d'un sol vierge. En fait, cette chaîne d'événements ne contient pas un seul élément qui n'est pas ou ne pourrait pas être vécu comme l'équivalent de quelque chose de sexuel. Ce chapitre est intitulé « Le culte collectif du phallus ». Si on lit ce titre trop vite, on peut comprendre qu'il pose l'existence d'un culte du phallus célébré collectivement. Ce serait un malentendu. Quand j'affirme qu'il y a des millions de témoins oculaires qui comprennent les vols spatiaux comme des événements sexuels, je ne prétends pas que ces millions d'humains célèbrent un rituel dionysiaque dans une ivresse commune. Ici, ce n'est pas l'événement culturel qui est collectif, mais son objet. Le culte lui-même est dispersé.
Dispersé, c'est ça la société de masse, mais quand même bien réel. Le culte du phallus, ça vous intéresse comme analyse, Irénée Regnault ?
Écoutez, en fait, non. Mais je trouve ça intéressant que ça ait été écrit très tôt, puisque c'est des critiques qu'on entend encore dans la bouche d'astrophysiciens très connus, cette idée que voilà, il y aurait cette forme de domination sexuelle. Je crois pas franchement que ce soit une analyse pertinente d'un point de vue sociologique, si ce n'est qu'elle existe d'une certaine manière. Et je crois surtout que, encore une fois, ces critiques assez englobantes et avec tout le respect que j'ai pour quelqu'un comme Günther Anders, ne nous permettent pas justement d'opérer cette différenciation entre les différentes activités du spatial. Oui, effectivement, les fusées sont des objets de domination, vous me l'avez fait dire d'une certaine manière, mais pour autant, on ne peut pas verser dans un déterminisme technique basique. Ce sont aussi des engins dont aujourd'hui nous avons besoin, ne serait-ce que pour des questions environnementales, des questions climatiques, etc.
Donc Sophie Roux, ah pardon, je voulais
non,
pas
non, mais allez-y.
Sophie Roux, vous êtes avec nous maintenant, je crois. Bonjour, hein, je n'ai pas encore entendu le son de votre voix. Vous faites de la philosophie et de l'histoire des sciences à l'École normale supérieure à Paris. Dès les années 1860, Jules Verne écrit beaucoup sur fait de la science-fiction. Alors, il faudrait bien pouvoir faire le tour du monde, de la Terre, cette fois-ci, très vite. Mais, évidemment, l'extraterrestre le passionne aussi. Est-ce que vous pensez que c'est là que c'est joué? Allons, osons le mot, quelque chose de phallique, un désir irrépressible de puissance des humains se jouant au-delà du terrestre.
Non, je ne suis pas convaincue par cette interprétation pour d'autres raisons. Et en fait, le rapport à la science-fiction commence largement dès le XVIIe siècle.
Oui.
Il n'y a pas de conquête de l'espace au sens où nous l'entendons au XVIIe siècle. On n'a pas envoyé de fusées, de Spoutnik, on n'a pas marché sur la Lune, il n'y a pas de sonde d'orbiteur sur Mars. Néanmoins, un effort d'imagination fondé sur les données de la science du XVIIe siècle a permis aux êtres humains de se représenter ce qu'était la Terre vue du ciel et d'imaginer qu'il y avait peut-être des formes de vie, y compris des êtres similaires aux hommes, dans ces autres mondes. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, on a quantité d'ouvrages tout au long du XVIIe siècle qui sont publiés, qui parlent de ces mondes imaginaires, on va dire. On a d'abord Le songe de Kepler, qui est un ouvrage vraiment complexe et publié à titre posthume par le fils de Kepler.
Et on parce que Kepler lui-même, il est mort en 1630. Hein. Oui. Pardon, je voulais juste donner quelques...
Il est mort en 1630.
Et Kepler...
Et l'ouvrage...
Oui, pardonnez-moi, non, finissez, je suis désolée.
Non, l'ouvrage est publié en 1634. C'est un ouvrage, enfin, on y reviendra peut-être, mais qui est écrit en plusieurs strates, avec une histoire très complexe. Mais ce que je disais, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont publiés comme ça. En Angleterre, on a des ouvrages de John Wilkins et Francis Godwin. On a Cyrano de Bergerac en France qui publie aussi des ouvrages. Et à la fin du siècle, il y a aussi bien des pièces inspirées de la Commedia dell'arte que des écrits tout à fait sérieux des plus grands scientifiques du moment, par exemple Christian Huygens ou Bernard Le Bovier de Fontenelle. Et donc, tout ça, en fait, est à la fois lié, je trouve, à ce qui était dit, parce que ce qui est en jeu, c'est quand même aussi un rapport entre ce qui est possible par la puissance technique et puis aussi ce qui est imaginé. Là, on est du côté de la fiction, de l'imaginaire. Et en première approximation, on pourrait dire « oui, mais il n'y a pas le capitalisme et des choses de ce genre ». Mais en fait, nous y arriverons peut-être dans la discussion. Le capitalisme est tout à fait présent aussi, puisque ce qui va inspirer ces voyages imaginaires, c'est aussi tout ce qui concerne les grandes découvertes et la découverte de l'Amérique, la colonisation de l'Amérique et des Indes, avec des enjeux qui sont des enjeux financiers gigantesques à l'époque, puisqu'il est question d'exploiter les mines de l'espace. Donc il y a des liens à la fois dans l'opposition entre et le rapport entre l'imaginaire et le réel, et dans, je pense, la question des grandes découvertes et de la manière dont elles ont pu inspirer ce type de récit.
Alors, je vous cache pas que j'entends parfaitement les intérêts financiers, économiques, pré-capitalistes puis capitalistes dans ces histoires, mais puisqu'on parle d'imaginaire, j'ai tendance à me demander si tout ça n'est pas un peu plus complexe, quoi. Il y a des envies d'utopie aussi. Bon, alors pour aborder ce problème, hein, où vous allez me répondre, enfin, je ne sais pas quelle est votre position. Il m'a quand même semblé, en vous lisant, en regardant vos travaux, que le 17e, dont vous venez de parler, a eu un rapport plus apaisé, assez serein même. Cyrano de Bergerac, on va entendre un extrait, évoque un paradis, un nouveau paradis terrestre, extraterrestre, en fait, la quête de quelque chose de beau, de bon pour les êtres humains. Alors que, il faut quand même rappeler que au XVIe siècle, XVe siècle, les premières analyses, la lunette qui a permis de voir qu'il y avait d'autres planètes, etc., a mis à bas la thèse de la Terre au centre du monde, et l'héliocentrisme, c'est une claque dans la figure pour les êtres humains. C'est angoissant aussi, ça veut dire qu'il y a d'autres mondes qui pourraient peut-être un jour nous envahir. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'abord des fantasmes angoissés autour de cela, avant un XVIIe siècle, qui d'ailleurs dans beaucoup de domaines, est plus serein, plus conquérant, plus sûr de lui?
Oui, je ne sais pas si on peut dire ça en termes comme ça de sérénité versus l'angoisse. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une actualité scientifique qui sous-tend tous ces récits. C'est en 1543, vous y faisiez allusion, que Copernic publie son ouvrage, pour le dire en français, « Des révolutions des orbes célestes », qui est le grand ouvrage d'astronomie mathématique qui propose de remplacer le système géocentrique, donc dans lequel la Terre est immobile au centre du monde, avec le Soleil, la Lune et les planètes du système solaire qui tournent autour d'elle, par un système héliocentrique. Donc c'est le Soleil qui est au centre. Et l'univers héliocentrique de Copernic est beaucoup plus grand que le monde géocentrique de Ptolémée. Copernic lui-même dit qu'il est immense, mais ça reste un monde fini, enclos, comme celui de Ptolémée, parce qu'on appelait alors la sphère des fixes. Et il faut attendre une quarantaine d'années, pour être exact, 1584, pour que Giordano Bruno publie des ouvrages en forme de dialogue, dans lesquels, par une série d'arguments logiques et théologiques, il défend l'idée que l'univers est infini, et il défend l'idée aussi qu'il y a peut-être une pluralité de mondes, avec éventuellement des êtres vivants qui habitent ces mondes. Et un dernier élément, peut-être pour un peu faire très rapidement un tableau, disons, de ce cadre théorique, c'est le Sidereus Nuncius, le messager céleste de Galilée, que Galilée publie en 1610. C'est un petit livre en nombre de pages, et c'est un livre où Galilée expose finalement tous les phénomènes nouveaux que la lunette qu'il a fabriquée lui a montré dans les cieux. Il y a des montagnes dans la Lune, la Voie lactée n'est pas une traînée lumineuse, mais est composée de quantité d'étoiles, Jupiter a 4 satellites, etc. Et ce qui est tout à fait frappant et important, c'est que Galilée, qui est à l'époque convaincu par l'héliocentrisme, n'argumente pas en faveur de ça. Ce qu'il fait, c'est simplement montrer en quelque sorte les phénomènes par tous les moyens, y compris des moyens visuels. Et en particulier, il y a de très célèbres gravures de la Lune avec ses montagnes qui sont reproduites par Galilée en utilisant les techniques du clair-obscur qui montrent bien comment on peut voir les montagnes. Et donc ça, je crois que ça a énormément frappé l'imagination, et en particulier les ouvrages auxquels je fais allusion. Il y en a un bon nombre dans lesquels il est question des habitants de la Lune. Donc on est bien dans la Lune. Et ensuite, peut-être par rapport à la question que vous posiez, je pense que c'est une époque peut-être similaire à la deuxième moitié du XIXe siècle, où il y a un intérêt du grand public pour tout ce qui est savant, scientifique, etc. Et ça explique que beaucoup finalement de fantaisie, je disais, il y a cette pièce Harlequin, empereur dans la Lune, qui est une pièce inspirée par la Commedia dell'arte. Il y a aussi Cyrano de Bergerac, c'est un roman tout à fait fantaisiste. Et tout ça, et je ne sais pas si c'est apaisé, mais c'est une manière d'imaginer les choses.
Alors, on va donner un exemple quand même de quelque chose d'assez serein, me semble-t-il. C'est donc vous qui avez attiré notre attention sur ce texte du XVIIe siècle, paru en 1657, L'autre monde où les États et empires de la Lune. On dit aussi, je crois, comme titre, Histoire comique des États et empires de la Lune. Tiens, avant d'ailleurs d'envoyer le texte, vous pouvez me préciser le titre, parce que c'est compliqué. L'auteur, qui écrit ce que nous allons entendre?
Ben c'est Cyrano de Bergerac.
D'accord, c'est bien le...
Voilà.
Et donc, ce n'est pas du tout une œuvre qu'on connaît bien. Pourquoi, d'après vous, par rapport à...
Bon. Oh ben, je pense qu'elle est relativement connue des historiens de la littérature. Et elle est très représentative de ce qu'on appelle parfois le mouvement libertin, parce que tous ces voyages sur la Lune vont permettre alors de montrer, dans certains cas, vulgariser, on dirait pour simplifier, toutes les connaissances cosmologiques de l'époque, essayer de les illustrer, mais ils vont permettre aussi une interrogation sur la place de l'homme et la condition de l'homme. Par exemple, le Cosmothéoros de Huygens est un ouvrage où il se demande si ces fameux êtres vivants sur d'autres planètes ont la même raison que nous, ont les mêmes sens que nous. Et puis, ça va être aussi un moyen de satire sociale et de critique de nos mœurs, de notre manière d'enseigner, notre manière de nous rapporter aux autres, etc. C'est, de ce point de vue, similaire au voyage de Gulliver, si on veut.
Entendu. Alors, on va écouter donc un extrait lu par François Perrier de L'autre monde ou les États et empires de la Lune de Cyrano de Bergerac, un livre de 1657.
Quand j'eus percé, selon le calcul que j'ai fait depuis, beaucoup plus des trois quarts du chemin qui sépare la Terre d'avec la Lune, je me vis tout d'un coup choir les pieds en haut, sans avoir culbuté en aucune façon. Après avoir été fort longtemps à tomber, je me trouvais sous un arbre. Par bonheur, ce lieu-là était, comme vous le saurez bientôt, le paradis terrestre. Et l'arbre sur lequel je tombais se trouva justement l'arbre de vie. Là, de tous côtés, les fleurs, sans avoir eu d'autres jardiniers que la nature, respirent une haleine sauvage qui réveille et satisfait l'odorat. Là, l'incarnat d'une rose sur l'églantier et l'azur éclatant d'une violette sous les ronces. Il faut que je vous avoue qu'à la vue de tant de belles choses, je me sentis chatouillé de ces agréables douleurs où on dit que l'embryon se trouve à l'infusion de son âme. Le vieux poil me tomba pour faire place à d'autres cheveux plus épais et plus déliés. Je sentis ma jeunesse se rallumer, mon visage devenir vermeil, ma chaleur naturelle se remêlait doucement à mon humide radical. Enfin, je reculais sur mon âge, environ 14 ans.
Je vous écoute, Sophie Roux, pour commenter ce texte. Tout à l'heure, quand je disais qu'il était peu connu, dans les représentations de Cyrano de Bergerac, évidemment, on pense à celle d'Edmond Rostand au XIXe siècle, qui sera très librement inspirée du personnage historique. On parle jamais de ça, quoi. On parle jamais de Cyrano de Bergerac, scientifique, amoureux de science-fiction. On n'entend pas cette fibre-là. C'est la raison pour laquelle je voulais m'assurer qu'elle était bien centrale pour les spécialistes de Cyrano de Bergerac.
Oui, alors je ne suis pas une spécialiste de Cyrano de Bergerac, mais en fait, comme je disais, il y a tout un aspect qui est de critique un peu sociale, parce que sur la Lune, on ne va pas avoir de respect pour ses parents, on n'aura pas de difficultés à parler de choses sexuelles devant les dames, la monnaie d'échange est un poème, et puis il y a aussi dans ce type d'ouvrage toute une fantaisie scientifique et technique, en ce sens, par exemple, que on ne lit pas les livres, mais on les écoute. Et Cyrano dit, voilà, il y a des petites machines qui permettent, pleines de roues et de ressorts, qui permettent d'écouter les livres au lieu d'avoir à les lire. Donc, c'est sans doute des ouvrages que j'évoquais. Le plus, de ce point de vue, vous diriez peut-être le plus apaisé, en oui. tout cas.
Le plus utopique au très bon sens du terme.
Voilà.
Et alors c'est vrai que c'est voilà, j'entends parfaitement que les deux invités d'aujourd'hui insistent énormément sur les envies de dominer qu'il y a dans les réflexions et les recherches concernant l'extraterrestre. Mais là, on a un bel exemple quand même de vision d'un monde meilleur, avec une critique sociale de la Terre, une dimension politique, morale. C'est, il y a une beauté quand même, non, de cette quête d'un autre monde.
Oui, alors, en fait, évidemment, si je faisais le parallèle avec alors, les grandes découvertes, c'est pour la raison suivante, c'est que il y a énormément de liens dans tous ces textes entre trois phénomènes qui sont régulièrement mis en parallèle. En premier lieu, donc, les grandes découvertes, les explorations maritimes qui ont permis, à partir du 15e siècle, de conquérir l'Amérique, de faire le premier tour de la Terre en bateau, ça c'est la flottille de Magellan, etc. Donc ça c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est la découverte de nouvelles sciences et plus généralement l'acquisition de nouvelles connaissances, un lieu finalement symbolique, si on peut dire, pour voir ça, c'est le frontispice de Francis Bacon, qui compare le franchissement des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire les piliers qui étaient supposés se trouver à la jonction entre la Méditerranée et l'Atlantique, et il compare ce franchissement au fait qu'on découvre dans notre siècle de plus en plus de connaissances. Donc ça, c'est le deuxième phénomène. Et le troisième phénomène, ce sont ces voyages imaginaires dans la Lune. Et donc, il y a cet entrelacement entre les grandes découvertes, les nouvelles sciences et la possibilité d'aller dans l'espace. Et ce qu'il faut voir, c'est que les grandes découvertes, ce qu'on nous apprenait à l'époque, à l'école, les fameux grands voyages de Christophe Colomb, de Vasco de Gama, de Magellan, ont été des entreprises tout à fait capitalistiques, on pourrait dire. Évidemment, il s'agissait d'ouvrir des routes commerciales. Il s'agissait aussi, dans le cas des Amériques, très rapidement de ramener des métaux précieux en Europe. Donc, on l'a d'abord fait en s'emparant des objets précieux, et puis ensuite on a ouvert des mines. Il y a la fameuse mine de Potosí en Bolivie, qui est un des plus grands centres urbains du XVIe siècle, et qui est un centre urbain où on fait travailler les natifs pour exploiter une mine d'argent absolument gigantesque qui se trouve à 4000 mètres d'altitude.
Oui.
C'est en ce sens. C'est vrai que les fantaisies vers la Lune, comme je disais, et vers ces autres mondes, sont plutôt utopiques, sont plutôt des formes d'interrogation philosophique sur le statut de l'homme, sur les enjeux moraux et politiques. Mais encore une fois, ce qui est derrière quand ces voyages, qui a permis finalement aussi de penser ces voyages, c'est d'une part un certain état des connaissances scientifiques que je rappelais avec Copernic, Bruno et Galilée, mais c'est aussi ces voyages effectifs qui avait bien un objectif, en fait, enfin, qui n'était pas, on pourrait dire, pour faire bref, de la pure science. On allait naturaliser pour découvrir de nouvelles espèces végétales et animales.
Alors, j'ai l'impression qu'en effet, vous allez dans le même sens, tous les deux, Sophie Roux et Irénée Regnault. Irénée Regnault, ce que vient de préciser Sophie Roux, c'est que la dimension esthétique, utopique, morale, politique, l'idée qu'il y ait peut-être d'autres êtres humains là-haut, qu'on ira peut-être les rencontrer. Il y a un texte de Fontenelle qui dit « il n'y a aucune raison de croire au XVIIe siècle qu'il n'y ait pas des gens là-haut ». L'idée de construire peut-être un autre monde, l'idée qu'on trouvera aussi de la beauté. De la beauté là-haut, tout ça vous paraît assez secondaire, c'est ce que j'entends bien chez l'un et l'autre.
Disons
par rapport
que...
à la réalité sociologique de la conquête spatiale.
Et matérielle aussi. On pourrait, enfin, en 1835, on pouvait lire dans le Sun qu'il y avait des chauves-souris sur la Lune. En fait, il y en a des histoires comme ça à l'appel et encore aujourd'hui. Et on en fait état d'ailleurs avec Arnaud dans un dernier chapitre sur les ovnis. Est-ce qu'il y a des nazis derrière la Lune? Est-ce qu'elle est creuse, etc. Donc il y aura toujours ça d'une certaine manière. Mais je rejoins effectivement le triptyque d'exploration, de nouvelles sciences, de voyages imaginaires et ces références permanentes à la question de la frontière, en réalité. C'est ça, aux États-Unis, qui va structurer d'une certaine manière le récit sur la conquête spatiale. C'est la notion de frontière, donc l'idée qu'il faudrait en permanence aller au-delà, d'une
Nous
certaine manière.
Nous avons commencé par là, avec un extrait explicite
oui,
de Donald Trump.
Oui, mais on y revient, parce que c'est cette notion qui est donc celle de Frederick Jackson Turner à la fin du 19e siècle, et qui est en réalité une lecture un petit peu fallacieuse de l'histoire américaine. Aucun historien américain sérieux ne fait état de la frontière comme étant le paradigme ultime pour lire cette histoire. Mais pourtant, c'est utilisé, réutilisé. On peut faire tous les parallèles qu'on veut, finalement, avec la conquête de l'Ouest, d'une certaine manière, la Lune n'est pas comparable géographiquement, ni l'espace d'ailleurs, à un milieu où l'on arrive en bateau et où l'on peut respirer. Vous respirez pas sur la Lune. Ça ne marche pas, d'une certaine manière. Et cet argument, il est bien compris, d'une certaine manière, par les astrocapitalistes, et le mot est utilisé à dessein pour justement signifier cette quête d'infini. On va aller miner des métaux sur les astéroïdes, comme on a miné des mines dans les pays, dans les futurs pays d'Amérique latine. On sait bien que d'une certaine manière, ça ne marche pas. Et ils le savent, et ils le disent. Et par exemple, ils répondent aujourd'hui à l'argument frontiériste et à l'argument colonial qui leur est opposé. Oui, mais vous allez là-bas comme vous êtes allé aux États-Unis. Et ils savent répondre. Oui, mais vous savez, il n'y a pas d'Indiens dans l'espace. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Il n'y a pas d'Indiens sur Mars, sur la Lune ou quoi que ce soit. Et pour autant, tout de même, vous avez, que ce soit à Boca Chica dans le sud-est du Texas, ou même dans l'histoire de la construction des bases spatiales sur toute la planète, des histoires d'expropriation, des histoires de colonisation, des histoires où on a besoin de mettre des bases aux endroits de la Terre où on peut tirer facilement et qui sont souvent des endroits désertiques où il y a des histoires coloniales.
Bon, nous, on finit sur un peu de poésie. Pardonnez-moi, c'est plus fort que moi.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Fly Me to the New Moon, pardon, Fly Me to the Moon de Frank Sinatra, 1964, une chanson d'amour qui convoque l'extraterrestre. Merci beaucoup Irénée Regnault et Sophie Roux. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine s'intéresse à la peur et aux dangers que la peur peut générer. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi la peur peut-elle être dangereuse? La peur est un mécanisme vital qui est censé alerter les êtres vivants sur les dangers qui menacent leur vie. Et en ce sens, il n'y a pas de passion plus utile et même nécessaire pour les êtres vivants que la peur. La peur est bien une passion au sens où c'est un mécanisme qui agit sur les vivants, même rationnels, même dotés de liberté comme les humains, qui agit sur eux en quelque sorte sans eux. C'est quelque chose qui se déclenche malgré nous. Si un incendie se déclare dans cette pièce, je suis censé avoir peur. Si je n'ai pas peur, c'est là que je devrais avoir encore plus peur, car je ne percevrai même pas le danger, et les êtres qui ne connaîtraient pas la peur sont peut-être condamnés à la mort. Et pourtant, la peur nous fait peur aussi. La peur nous fait peur parce qu'elle peut évidemment devenir elle-même dangereuse. Et il y a un paradoxe de la peur, une sorte de peur au second degré contre laquelle on doit lutter aussi. Évidemment, le mécanisme le plus simple, le tort, l'erreur, l'erreur justement la plus simple de la peur, ce serait justement de considérer qu'elle peut se tromper d'objet. Cela arrive chez tous les vivants, même chez les animaux, et même peut-être chez tous les vivants en général, qui peuvent se tromper d'objet de peur, de telle sorte que, par exemple, nous autres, rusés vivants humains, nous utilisons la peur des vivants pour les manipuler. Nous tendons des pièges, nous leur faisons peur d'un côté, peut-être avec un chien qui aboie, et d'un autre côté, le pauvre animal terrifié va se jeter devant le fusil du chasseur. Ainsi, la peur peut se tromper. Si l'animal avait pu raisonner, avait pu réfléchir, avait pu calculer la source de sa première peur, il aurait pu peut-être éviter la seconde, se dire qu'il y avait là un piège, ce qui prouve que la peur peut se tromper d'objet, que la peur qui doit nous préserver contre les dangers participe de l'ambivalence de tout ce qui relève de la vie et peut elle-même devenir dangereuse. Alors on peut se dire, le progrès de l'évolution des espèces qui aboutit en quelque sorte à l'espèce humaine, à nous autres êtres humains, est une façon justement de répondre à ce danger inhérent à la peur elle-même, à cette crainte de l'erreur dans la détermination de l'objet de la peur. Et c'est pourquoi la raison technique, la raison calculatoire, la ruse aussi, la raison comme ruse et non pas tout de suite la ruse de la raison, mais par exemple la technique des humains peut leur permettre en effet d'éviter de se tromper de peur. Les humains se représentent l'objet de leur peur. Ils ne font pas que le subir comme une passion, ils se le représentent ainsi. Quand je sens de la chaleur, je peux essayer de me représenter sa cause, me représenter par exemple l'incendie qui commence dans la forêt, aller l'éteindre ou commencer à fuir. Ainsi, la représentation devrait nous prémunir contre toutes les erreurs et donc contre tous les dangers de la peur. Mais ce n'est peut-être pas le cas, car la représentation aggrave aussi la peur. Elle nous fait nous représenter les objets de la peur, et la représentation est la source de multiplication de la peur. Elle peut devenir aussi la représentation du danger en général, ce que les philosophes ont appelé l'angoisse. Alors comment lutter contre ce danger démultiplié de la peur, même peut-être chez les êtres humains? Eh bien c'est justement en assumant de délimiter les objets de la peur, en réfléchissant à circonscrire la peur, en n'ayant pas peur d'affronter la peur, mais pas non plus de la généraliser, en essayant d'affronter la peur, donc par toutes les ressources, des techniques, des vivants et des humains réunis.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Axel Dubois qui nous a beaucoup aidé pour cette série, Armance Bourquin, Carla Michel et Nassim El Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!